Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Chers frères et sœurs, quand le message vient à étouffer ou écraser la personne qu'il désigne, eh bien, c'est autant la mort du message que la mort de la personne qu'il veut désigner. Peut-être avez-vous déjà entendu cet adage propre aux techniciens de la communication. Le message veut désigner quelqu'un et laisser apparaître la personne comme unique et première, et le message tend presque à s'effacer. Car pour ce qui est du commandement nouveau de Jésus, aimez-vous les uns les autres, j'ai envie de dire d'une certaine manière qu'on l'entend, et on l'entend encore et toujours, comme un leitmotiv. Il est devenu presque universel sur la terre entière, à tel point que l'on a presque perdu tout contact avec la personne même qu'il désignait et qu'il portait, cette personne même qui en est la cheville ouvrière. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il paraît donc indispensable pour aimer de passer par celui qui nous a aimés. On ne peut aimer durablement et efficacement sans la foi dans la personne du Christ. Alors, peut-être vous me rétorquerez que les catholiques n'ont pas le privilège de l'amour et que des personnes non croyantes sont bien plus aimantes que nous. Et c'est vrai, vous auriez bien raison. Il y a une certaine notion de l'amour que l'on pourrait appeler la bienfaisance qui subsiste sans la foi. En effet, de nombreux saints se sont levés dans notre pays et dans notre monde pour organiser une civilisation de l'amour. Que ce soit Damien de Molokai auprès des lépreux, un Vincent de Paul auprès des pauvres et des nécessiteux, une Mère Teresa auprès des mourants. Et aujourd'hui, qu'en est-il? Apparemment, sans eux, cela continue. La sécurité sociale, les coopératives, les allocations, les syndicats, les jardins ouvriers, les clubs de foot même, les hospices, les aumôneries, les visiteurs de malades et de prisons, et j'en passe. Autant de fruits d'un amour né dans le cœur d'hommes et de femmes qui se sont clairement sentis appelés par le Christ à l'aimer à travers les pauvres, les nécessiteux qu'ils rencontraient, leurs frères. Mais il faut bien admettre que cette civilisation de la bienfaisance persiste aujourd'hui. Alors que le porteur du message et celui-même qui est désigné par le message semble passer à la trappe comme une contingence, comme une option ou une opinion personnelle, juste tolérée. En effet, notre société vit dans, vous m'excuserez, mais dans une certaine opulence des aides sociales, des assistances publiques, du secours aux SDF, des télétons, des SIDAction, des sauvetages même de ces pauvres éléphants malades. Et qu'en est-il de l'homme? Qu'en est-il de sa recherche effrénée de Dieu et de son frère? Force est de constater que notre 20e siècle et notre 21e siècle naissant est gavé de moyens d'assistance. Mais alors, pourquoi meurt-on aujourd'hui encore de solitude? Pourquoi aujourd'hui tant d'hommes et de femmes meurent de désespérance et manquent de confiance? Pourquoi notre société, apparemment experte en sécurité et en assistance aux personnes, a obtenu le record de morts violentes, dépassant sur un seul siècle 2000 ans de guerre et de rapine? Il semble que l'amour ait perdu une certaine consistance, comme le sel perdrait de sa saveur, ou comme la lumière qui perdrait de son éclat à force d'être cachée sous le boisseau des convictions personnelles. On ne peut garder le message de l'Évangile sans s'attacher à la personne du Christ. Il est absolument illusoire de prétendre vivre des valeurs chrétiennes, ou ce que l'on appelle la morale chrétienne, sans passer par la personne du Christ. Je ne peux pour cela m'empêcher de reprendre une nouvelle fois les propos de Benoît XVI dans sa lettre apostolique introductive à l'année de la foi qu'il y a commencé en octobre dernier. Je le cite. « Il arrive désormais fréquemment que des chrétiens, s'intéresse surtout aux conséquences sociales de l'Église, aux conséquences sociales, culturelles et politiques de leurs engagements, continuant à penser la foi comme un présupposé évident du vivre en commun. En effet, ce présupposé, non seulement n'est plus tel, mais souvent il est même nié, alors que dans le passé, il était possible de reconnaître un tissu culturel, unitaire, largement admis dans son renvoi au contenu de la foi et aux valeurs inspirées par elle. Aujourd'hui, il ne semble plus en être ainsi dans de grands secteurs de la société, en raison d'une profonde crise de la foi qui a touché de nombreuses personnes. Nous ne pouvons accepter que le sel devienne insipide et que la lumière soit tenue cachée. Alors, quand on va qualifier le chrétien comme la personne qui aime par excellence, je me permets de caricaturer, mais on le réduit. On le réduit à la bienfaisance, à la gentillesse, à un service, je dirais, un service paroissial bien gentil. Non. Non, parce que ce qui qualifie le chrétien, comme le dit Benoît XVI, c'est la foi qui se vit dans la joie et dans l'enthousiasme suscité par la rencontre du Christ. Il nous invite à revenir, Benoît XVI nous invite ainsi à revenir à l'exigence de redécouvrir la nécessité de passer par la porte étroite qu'est le Christ. Alors on pourra dire, « Et toi, chrétien, montre-moi ta foi et je verrai ton Dieu. » Parce que Dieu doit passer par nous. Dieu a besoin des hommes. Dieu ne peut agir dans notre monde sans passer par nous. Dieu a besoin de notre charité. Certes, il faut utiliser notre intelligence, notre perspicacité, nos talents, notre formation, notre, on pourrait dire, une certaine curiosité pour savoir de quoi l'autre a besoin. Là seulement, Dieu pourra enfin intervenir, car il nous veut libres de poser les paroles et les actes qui manifestent une charité effective. Là seulement, il nous fera nous dépasser. À nous de prendre le temps de le voir intervenir, de le remercier, de lui rendre grâce, de nous avoir ainsi donné les forces de ce qu'il nous demandait pour participer à notre salut et au salut du monde. Alors là, notre amour ne viendra pas seulement dans nos capacités ou nos incapacités à résoudre les problèmes de notre société. Parce que l'amour n'a pas pour but de solutionner. Non, l'amour, c'est d'aimer comme je vous ai aimé, nous dit le Christ. Qu'est-ce à dire ? C'est dire que ma charité manifeste, doit manifester d'une manière ou d'une autre la gloire de Dieu. Elle doit manifester de quelque chose de bien plus grand que moi-même, bien plus grand que mes seules capacités. Car si je fais que ce que je ne sais faire, il n'y a pas grande dignité. Il faut s'unir au sacrifice du Christ pour que par nous, par nos moyens, si l'on peut dire illusoires, Dieu transforme ceux et celles que nous aidons et à qui il a lui-même donné la vie. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Dieu, en retour, lui donnera sa propre gloire et il lui donnera bientôt. Alors, l'amour pour l'autre peut grandir jusqu'à la bienfaisance, certes, mais c'est aussi le signe que le royaume grandit. Et ça, c'est mon critère d'amour. Que le royaume grandisse. C'est ce qui fait dire à saint Clément d'Alexandrie, un des pères de l'Église, « Tu as vu ton frère, alors tu as vu ton Dieu. » C'est ce qui a fait dire aussi à une mère Thérésa, « Bien, quand l'amour est là, Dieu est là. » C'est ainsi que la gloire de Dieu peut se manifester dans le monde. La grandeur de Dieu peut se mesurer au salut qu'il nous apporte. Alors, si des saints ont révolutionné notre société par leur charité, et nous ont offert aujourd'hui un système social, si l'on peut dire, hyper développé d'assistance et d'aide, c'est qu'ils n'ont pas cédé à la tentation des solutions. Ils ont eu l'audace de répondre à l'appel du Christ, appel à être des instruments d'un projet qui les dépassait largement, dont ils n'en avaient pas tous les moyens. C'est l'union indissociable de l'amour de Dieu et du prochain. Alors là, en effet, vous guérirez les malades, vous ressusciterez des morts, vous chasserez des démons, vous déplacerez les montagnes, parce que le royaume de Dieu est proche. Le commandement nouveau de nous aimer les uns les autres, comme Jésus nous a aimés, se situe dans l'évangile de Jean, dans le prolongement du lavement des pieds. Et cela n'est pas anodin parce que c'est un lieu clé pour nous. Ce commandement de se laver les pieds, de se laisser laver les pieds par le Christ, est associé au commandement de nous laver les pieds les uns aux autres. Il ne s'agit pas de voir l'autre comme une solution à régler, encore une fois, ou une situation intolérable et insupportable que je dois éradiquer pour mon bien-être. Non. L'autre est celui qui a suffisamment de prix à mes yeux pour qu'il mérite que je m'agenouille à ses pieds pour laver la misère de ses pieds. C'est l'école de la diaconie, l'école du service. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Servir son frère, c'est servir Dieu. C'est peut-être la première liturgie de l'Église. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, eh bien c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà la grandeur du destinataire de notre bienfaisance. Voilà l'auteur du message que nous avons apporté et le destinataire du message que nous avons apporté. Pour reprendre les paroles de Don Olivier Quénardel, père abbé de l'abbaye de Citeaux, que nous avons rencontré il y a quelque temps avec les frères, je le cite, « Lavez-vous les pieds les uns des autres, entre vous. C'est le signe de l'acceptation heureuse de la diversité nécessaire à l'amour, à toutes les relations d'amour véritables. Tu n'es pas à moi, je ne suis pas à toi. Tu n'es pas moi, je ne suis pas toi. Notre relation dépend de la qualité de l'accueil et du don que nous nous faisons l'un à l'autre, les uns aux autres, comme Jésus nous en a donné le commandement. Entre vous, il ne doit plus être question de rivalité, de jalousie et de domination. Vous êtes tous frères et vous devez vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et il termine par cette phrase comme une sentence. C'est là le grand signe qui rendra mon Église crédible. Que la Vierge Marie, notre Mère, Mère de toute charité, nous donne d'être ingénieux et audacieux dans la charité, pour répondre aux appels de notre monde. Demandons-lui la grâce de l'humilité pour passer la porte étroite qu'est le Christ, cette porte qui est la juste mesure de notre charité, qui est l'efficacité de toutes nos paroles et nos actes, et de notre bienfaisance. Ainsi, nous aimerons comme le Christ nous a aimés, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen.